VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 22 novembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée-Bissau, début de la présidentielle de dimanche avec le vote anticipé des membres des forces armées et de sécurité.
Au Mali, découverte des corps de 13 soldats portés disparus. Le nombre de membres des FAM tués dans l'attaque djihadiste de lundi à Tambacor est maintenant de 43.
En République démocratique du Congo, les États-Unis annoncent une aide de 600 millions de dollars et la France renforce son partenariat dans la lutte anti-Ebola.
Au Mozambique, le président Philippe Nyusi, rattrapé par le scandale de la dette cachée, il est accusé à son tour d'avoir touché d'importants pots de vin dans cette affaire.
Ici aux États-Unis, l'affaire ukrainienne, conclusion hier d'une série d'audiences publiques à la Chambre des représentants sur une éventuelle procédure de destitution contre le président Donald Trump.
En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption, dénonce de fausses accusations.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Guinée-Bissau, les membres des forces armées et de sécurité ont donné hier le coup d'envoi de l'élection présidentielle. Les électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour départager 12 candidats. Idriss Fall.
D'après la Commission nationale électorale, plus de 6 000 membres des forces de défense et de sécurité étaient appelés aux urnes. Quelques 1500 soldats et policiers en uniforme ont voté dans le calme dans les 3 centres de vote à Bissau. Leurs votes sont comptabilisés, mais les résultats seront publiés après le scrutin de dimanche où près de 700 000 électeurs sont appelés aux urnes. Ils doivent départager 12 candidats dont les favoris sont des acteurs de toutes les crises politiques qui ont ébranlé ce pays ces dernières années. Il s'agit notamment du président sortant José Mario Vaz, son ancien premier ministre Domingo Simões Pereira, chef du PAIGC, ou Nuno Nabiam à la tête d'une dissidence du PAIGC, ou encore un autre ancien premier ministre, Carlos Gomes Junior, chassé par un putsch en 2012. Les premières tendances sont attendues en début de semaine prochaine et les résultats provisoires doivent être proclamés le 27 novembre et un second tour, hautement probable, est prévu le 29 décembre.
L'armée malienne a découvert jeudi les corps de 13 de ses soldats portés disparus après l'attaque de lundi à Tambacor, près de la frontière nigérienne. Cette découverte porte à 43 le bilan de cette opération attribuée à des djihadistes, a-t-on appris jeudi de sources sécuritaires maliennes. Le bilan était jusqu'ici de 30 militaires tués. 6 d'entre eux ont été localisés dans leur véhicule à Tambacor, dans la région de Menaka, et 7 à proximité de la localité d'Infokaritane, selon la même source. Ils avaient été découverts, ajoute-t-elle, par des populations locales qui avaient hésité à s'en approcher par peur de représailles des terroristes.
Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé hier leur profonde préoccupation au sujet de la sécurité et de la situation humanitaire au Sahel, notamment les conséquences dévastatrices du terrorisme et de la violence intercommunautaire. Ils se sont également félicités des mesures prises récemment par les États du Sahel dans le cadre de l'opérationnalisation de la force conjointe, en particulier l'opération Bourgou 4, qui a permis de neutraliser et d'arrêter de nombreux terroristes et de démanteler certaines de leurs capacités logistiques. Nous reviendrons en seconde partie sur le G5 Sahel avec le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, joint à New York.
Les États-Unis ont annoncé hier à Kinshasa l'octroi d'une aide de 600 millions de dollars à la République démocratique du Congo d'ici à 2022 pour consolider la transition politique en cours depuis l'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi. Le point avec Eddie Isango.
L'accord a été signé par les directeurs de l'UCAUD, Paul Sabatine, et les ministres congolais de la coopération internationale, Pépin Guillaume Mandjolo Bouakila. Les gouvernements américains soutiennent les programmes de changement du président Félix Tshisekedi, a déclaré Mike Hammer, ambassadeur américain, dans un communiqué à Kinshasa. Ce financement appuiera les activités de développement liées à l'éducation, à la croissance économique, à la santé, à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance, à la protection de l'environnement et à l'aide humanitaire, détaille les communiqués. Cet accord porte l'aide américaine dans ces secteurs à 1,25 milliard de dollars depuis 2015, ajoute les communiqués. Pour sa part, la France s'est engagée à mobiliser 71 millions d'euros dans le domaine de la santé. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé début novembre en recevant Félix Tshisekedi que son pays allait investir 65 millions d'euros pour accompagner les travaux de modernisation et de transformation de la République démocratique du Congo. En mai à Kinshasa, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait annoncé un programme de 300 millions d'euros sur la durée du mandat du président Tshisekedi jusqu'en 2023. M. Tshisekedi gouverne en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila qui a gardé les contrôles du Parlement et d'une majorité des 26 provinces.
Le président du Mozambique est rattrapé par le scandale dit de la dette cachée qui a précipité son pays dans une grave crise financière. À son tour, Philippe Nyusi est accusé d'avoir touché d'importants pots de vin dans cette affaire. Des détails avec Jacques Aristide.
Le chef de l'État mozambicain, réélu le mois dernier, a été mis en cause par l'homme d'affaires libanais Jean Boustany, jugé depuis la mi-octobre à New York. Il a identifié Philippe Nyusi parmi les bénéficiaires présumés de commissions occultes. Nous lui avons payé 1 million de dollars comme contribution à sa campagne électorale de 2014, a déclaré le principal accusé de cette affaire. La justice américaine accuse Jean Boustany d'avoir versé des dizaines de millions de dollars à de hauts responsables du régime de Maputo pour obtenir en 2013 et 2014 des contrats de livraison de navires de pêche et de patrouilleurs militaires. Le Mozambique a financé ses achats par un prêt de 2 milliards de dollars qu'il a délibérément caché à son Parlement et à ses partenaires financiers étrangers. Les déclarations de Jean Boustany ont fait l'effet d'une bombe au Mozambique. Un parti d'opposition a réclamé la démission du président Nyusi. De son côté, le parti au pouvoir, le Frelimo, a démenti l'implication du chef de l'État. Il reste calme et suit les événements, d'après un porte-parole du parti qui maintient qu'il n'a rien à voir avec la dette.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, a conclu hier une série d'audiences publiques dans le cadre de l'enquête sur une éventuelle procédure de destitution contre le président Donald Trump. Il a assuré que les faits reprochés à M. Trump étaient bien plus graves que ceux commis par l'ancien président Richard Nixon, dans une allusion au scandale du Watergate d'il y a plus de 4 décennies.
Au cours des 8 derniers jours, 12 témoins entendus au Congrès ont livré de nombreux éléments à charge pour le président américain, sans ébranler, du moins en apparence, les élus républicains. Les démocrates accusent le président républicain d'avoir abusé de sa fonction en faisant pression sur Kiev pour une enquête sur un possible rival en 2020, l'ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter. M. Trump le dément et se dit victime d'une chasse aux sorcières sans précédent.
En Israël, le procureur général a décidé hier de mettre en examen le premier ministre Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires. Claire Morin-Gibourg.
Le procureur général Avishai Mandelblit a décidé d'inculper Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans l'affaire 4000, a indiqué le ministère de la Justice. Après des mois de suspense, Benjamin Netanyahou est devenu hier soir le premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à être inculpé pour corruption pendant son règne. Cette annonce est intervenue quelques heures après que le président israélien a demandé au Parlement de trouver un premier ministre. Monsieur Netanyahou et son rival Benny Gantz ont chacun échoué à former un gouvernement après les élections législatives de septembre. Selon la loi israélienne, Benjamin Netanyahou peut demeurer premier ministre malgré cette mise en examen, mais il ne peut pas devenir simple ministre dans un éventuel gouvernement de coalition. Cette inculpation pourrait toutefois minimiser les chances de M. Netanyahou de rallier une majorité de députés de la Knesset pour se maintenir au pouvoir.
La Minute Éco, Nani Talani.
La Guinée va se doter de 650 km de voies ferrées et d'un port en eau profonde dans le cadre d'un contrat d'exploitation minière avec un consortium international soutenu par la Chine, écrit l'agence Ecofin. Les travaux dureront 5 ans et seront coordonnés par la société minière de Bouké, consortium formé par des Asiatiques et la société guinéenne de transport et logistique United Mining Supply. En contrepartie, le consortium SMB Winning aura l'autorisation d'exploiter le minerai de fer des blocs 1 et 2 de Simondou d'une superficie de 369 km². C'est le plus important gisement de fer d'Afrique. Le Togo et le groupe panafricain Eranoveya ont signé les accords de financement relatifs au projet de la centrale électrique Kekeli dans la zone du port de Lomé. D'une puissance de 65 MW, la centrale permettra de fournir une énergie électrique additionnelle pour l'équivalent de plus de 250 000 foyers togolais, tout en limitant les rejets de gaz carbonique. Les travaux coûteront 65,4 milliards de francs CFA, mobilisés à 100% par des institutions financières africaines. Pour terminer, des découvertes importantes de gaz au large du Sénégal permettront au pays de convertir ses centrales thermiques au charbon et au mazout dans la production de gaz au cours des prochaines années. Selon le ministère du Pétrole et de l'Énergie, le Sénégal importera du gaz naturel et liquéfié au cours de la première phase de la conversion. Les importations cesseront vers 2022 lorsque la production de gaz commencera.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Supercoupe d'Afrique aura lieu au Qatar.
Oui, la Supercoupe d'Afrique qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions, l'Espérance de Tunis cette année, aux Zamalek d'Égypte. Vainqueur de la Coupe CAF se jouera le 14 février prochain à Doha au Qatar. Ainsi en a décidé la CAF lors d'une réunion tenue hier au Caire. Mortada Mansou, président du Zamalek, avait récemment menacé de boycotter le match s'il était programmé au Qatar, avec qui l'Égypte a rompu ses relations diplomatiques depuis 2017.
L'AC Milan propose un contrat de 6 mois à Ibrahimovic.
En difficulté depuis le début de la saison, l'AC Milan a proposé une pige de 6 mois à son ex-star de 38 ans, qui a annoncé la semaine dernière son départ des Los Angeles Galaxy. Selon la Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italia, le club italien a engagé les négociations avec l'agent de Zlatan Ibrahimovic pour tenter de le faire revenir en Lombardie, où il avait passé 2 saisons entre 2010 et 2012. Le Suédois avait marqué 42 buts en 61 matchs, contribuant au dernier titre de champion décroché par le club italien à l'issue de la saison 2010-2011. L'AC Milan peine à décoller cette saison seulement 14e de Serie A après 12 journées de championnat.
Cyclisme, les étapes et les équipes du Tour du Rwanda 2020 ont été dévoilées.
Oui, la coordination a procédé à la publication des étapes et des équipes engagées pour l'événement qui se tiendra du 23 février au 1er mars prochain. Pour une nouvelle fois, le peloton va parcourir les routes et les paysages du pays des mille collines à travers 8 étapes. La plus longue sera courue entre Ruziki et Rubavu lors de la 4e étape longue de 206,3 km. En plus du pays hôte, le Rwanda, des formations venues d'Angola, du Cameroun, d'Algérie, d'Éthiopie, d'Érythrée, d'Afrique du Sud, d'Allemagne, de la France, d'Italie, des États-Unis seront de la partie. La course à la succession de Merawi Kudus, porteur du maillot jaune en 2019, sera donc lancée bientôt.
La Basketball Africa League en est à son 2e tour.
Oui, la FIBA a procédé au tirage au sort des groupes du 2e tour de la compétition. Les 16 formations ont été réparties en 4 groupes d'après les divisions. La division Ouest disputera ses matchs du 26 novembre au 1er décembre à Yaoundé au Cameroun. FAP Niguelec du Niger, GSP d'Algérie et Al Nasser de Libye d'un côté, ABC de Côte d'Ivoire, ASB Mazembe de la République démocratique du Congo, Manga BB du Gabon et AS Police du Mali de l'autre forment cette division. La division Est est composée de Patriotes BBC du Rwanda, GNBC de Madagascar, Younas Passers de Zambie et JKT de la Tanzanie d'une part, KPA du Kenya, Ferroviaro de Mozambique, Cobra du Soudan du Sud et City Halls d'Ouganda d'autre part. Les matchs de cette division de la Basketball Africa League auront lieu à Kigali du 17 au 22 décembre prochain. Idrissa, puisqu'on parle de basketball, on reste dans cette épreuve pour donner les résultats de la nuit dernière en NBA.
2 matchs seulement, la Nouvelle-Orléans et Phoenix 124 à 121, Milwaukee et Portland 137 à 129.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée-Bissau, les partisans des 12 candidats à la présidentielle de dimanche rivalisent d'ardeur pour inviter les citoyens à aller voter. Reportage de notre correspondante sur place, Nari Kaling Lopi.
Musique à fond. Les jeunes partisans du président José Mario Vage sont réunis à Bissau. Pour Dodo Ndiaye, plus que quelques heures pour tenter de convaincre.
Je milite activement parce que j'ai vu un homme qui en vaut la peine, José Mario Vage, parce que ses mains sont propres.
Réunion, campagne d'affichage. Depuis un an, le jeune partisan ne compte pas ses heures au service de José Mario Vage. Et il n'est pas le seul. Cheveux bouclés et allure soignée, Awa Camara nous accueille dans son bureau du QG de campagne. À 33 ans, elle fait partie de la garde rapprochée du chef de l'État.
Personnellement, j'espère que José Mario Vage sera réélu. Il pourra réaliser son programme et aider la Guinée-Bissau.
Seulement, les précédentes élections ont été boudées par les plus jeunes. Lors des législatives de mars dernier, le taux d'abstention a dépassé les 15%. Mais Awa Camara en est convaincu, le changement passe par les urnes.
Beaucoup de jeunes disent qu'ils ne vont pas voter. C'est parce qu'on sait d'avance qui va gagner. Mon conseil, c'est de dire aux jeunes d'aller voter.
Pourtant, cette génération entend faire bouger les lignes. Nouveau quartier général, mais toujours la même ambiance. Nous nous rendons à deux pas de la présidence, au siège du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ici, on milite pour Domingo Simonge Pereira, l'un des principaux opposants à José Mario Vage.
En tant que jeune, on nous a donné la responsabilité de faire du porte-à-porte pour dire aux autres d'aller voter. Domingo Simonge Pereira nous a invités à le rejoindre, à participer pour faire avancer le pays.
Junior Keba Lopez est déterminé. Même chose pour Gina Boumani, 25 ans.
Domingo Simonge Pereira est quelqu'un capable de diriger le pays, quelqu'un qui saura à résoudre les problèmes de la société, quelqu'un qui met en avant tout le monde sans distinction et mène une politique en faveur des femmes.
Sono hurlante, quel que soit leur parti, les jeunes militants bissau-guinéens continuent de sillonner la capitale et ce jusqu'à vendredi soir, dernier jour de campagne. Dari Kaling Lopi à Bissau pour VOA Afrique.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques régulières attribuées à des groupes djihadistes depuis 2015. Pourtant, après une réunion à Bruxelles en février 2018, les donateurs avaient promis des centaines de millions de dollars à la force du G5 Sahel pour combattre le terrorisme. Ces promesses ont-elles été tenues? Pour un éclairage, Idriss Fall a joint à New York Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
C'est maintenant qu'il y a quelques matériels qui ont commencé à être livrés. Il y a eu des retards, il y a des structures qui devaient fabriquer des matériels en question. Il y a eu des retards, à chaque fois qu'on a dit ils vont donner à tel moment, après ça prend encore du temps. On est resté dans cette succession de reports jusqu'à maintenant. Alors que la réunion de Bruxelles, c'est depuis février 2018.
Le G5 Sahel, on sait que le Mali, il y a quand même quelques problèmes parce qu'on a vu une lettre du Burkina se plaignant des incursions maliennes alors que les opérations devaient être conjointes. Qu'est-ce qui se passe entre le Mali et le Burkina?
C'est quelque chose qu'on est en train de régler. Je préfère ne pas me prononcer dessus. On appartient au même espace dans les relations d'amitié, de fraternité, de coopération. Donc, en principe, il n'y a pas de problème.
Mais est-ce qu'il y a un problème aussi avec la France? On a vu beaucoup de voix s'élever contre la France au Burkina Faso. Et pourquoi?
C'est une situation un peu générale partout. Mais on est en train de gérer la situation. Je préfère ne pas pouvoir en dire plus.
Mais la France est une alliée du Burkina Faso. Et la France a même des soldats sur place.
Oui, la France est un pays allié dans la guerre du Burkina contre le terrorisme. C'est un allié important.
Que pensez-vous de ces alertes-là pour que les citoyens français ne se rendent pas au Burkina Faso?
C'est la même chose que font la plupart des pays. Hein. Je constate avec tout le monde. Sur ces questions, je ne peux pas en dire plus, étant moi-même chargé de gérer ça.
Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso est bien outillé pour vaincre le terrorisme alors?
Bien outillé. Dans tous les cas, la menace à laquelle nous faisons face est une menace nouvelle pour nous. Bon, ça fait 4 ans déjà que ça a commencé, mais c'est la première fois que le Burkina fait face à un conflit intérieur et donc essaie de s'adapter avec des alliés ou la communauté internationale. On est obligé de se battre pour assurer la survie de notre pays. Donc c'est un combat qui va être mené et qui est déjà en train de se mener.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont venir donner un coup de main, comme on dit, peut-être même une participation des forces ivoiriennes ou peut-être même sénégalaises?
Tout ça est en étude dans le cadre du plan d'action de la CEDEAO et également au niveau de l'UMOA.
Et vous pensez que la solution, c'est une solution militaire pour combattre le terrorisme, d'autant que les Américains, eux, discutent avec les talibans afghans?
La solution n'est pas que militaire. La solution est aussi celle de développement. La solution aussi est celle de la cohésion sociale. La solution, c'est aussi celle de la réponse aux préoccupations des zones qui sont concernées ou des populations qui sont concernées. Donc, on est tous d'accord que la réponse n'est pas que militaire.
C'était Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République démocratique du Congo, les femmes sont sous-représentées dans les métiers d'ingénieurs informaticiens. Elles font face à de nombreux stéréotypes. Aujourd'hui, certains acteurs privés essaient de changer cette situation. Reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Certaines femmes avouent qu'elles n'osaient pas suivre cette option à cause des stéréotypes et d'autres clichés. Emmanuela Vassikia n'a pas réussi à surmonter tous ces échos racontés autour de ses métiers.
Avant, il y avait des us et coutumes qui ne permettaient pas aux femmes, aux filles, de suivre des options comme la communication. Quand on voyait une fille parmi tant de garçons, on avait des considérations là très négatives en pensant que la fille est une prostituée, soit elle se fait voir. Je pense que les filles ont beaucoup perdu, les filles ainsi que les mamans, et il est temps de récupérer ces retards-là.
Arsène Tungali est un activiste pour les droits à l'Internet. Il estime aujourd'hui qu'il n'y a aucune esquisse.
À ce siècle ici, personne ne devrait se mettre à l'écart. Désormais, on dit que les analphabètes, ce sont toutes ces personnes qui ne savent pas manier l'outil du numérique. Suite à beaucoup de raisons, des coutumes et à faire ce que les femmes soient derrière, mais aussi les parents ne les encourageaient pas. Regardez juste les statistiques des femmes qui vont à l'école et vous verrez que c'est presque la même chose pour les femmes qui vont sur Internet.
Les chiffres sur la présence des jeunes filles dans les écoles d'informatique commencent à grimper à l'Institut supérieur d'informatique et de gestion de Goma. On s'est dit satisfait de ces progrès. Didier Fataki était enseignant et chef de section à l'ICIJ Goma.
Aujourd'hui, on est autour de 32% des filles, alors qu'il y a 5 ans, c'était autour de 21%. Ça montre que la progression est là. Et là, je ne parle que des statistiques de notre institution. Quelqu'un qui fait l'informatique aujourd'hui, ce sont des gens qui peuvent créer ce qu'on appelle les start-up et cette possibilité d'être autonome.
Être autonome, c'est ce que fait aujourd'hui Joséphine Ndezé, la vingtaine d'âge, entrepreneur et passionnée de la programmation. Elle a lancé son start-up avec une application qui aide les femmes enceintes à détecter les signes vitaux, une application qui lui a valu un prix.
Non seulement j'aime l'informatique, c'est comme une passion, mais également c'est un défi envers tous ces gens qui prétendent que les femmes ne peuvent pas faire l'informatique. Grâce à ça, je suis devenue cofondatrice d'une start-up ici à Goma, UpToDate Developers, et je crois que je vais aller plus loin.
Le gouvernement congolais doit s'impliquer. C'est son devoir de promouvoir les jeunes filles dans ce domaine longtemps laissé aux hommes, estime Aubangira Safari, député national et ingénieur en informatique.
Moi, je pense que tout ça fait partie de la problématique du genre. Je vais essayer de voir comment sensibiliser les femmes, les filles. Si on voit au niveau national, parmi les meilleurs des ex-États, il y a beaucoup de filles. Ce sont ces filles qu'on doit essayer de voir comment promouvoir aussi, faire ce qu'on appelle une discrimination positive.
Lors de la 6e édition de la Semaine de la Science et Technologie tenue à Kinshasa le 20 avril dernier, une base de données des femmes en science a été présentée dans un rapport indiquant seulement 23% des informaticiens actifs actuellement en RDC sont des femmes. Charles Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En Algérie, le début de la campagne pour la présidentielle du 12 décembre se déroule dans un climat de répression et d'atteinte aux libertés, selon Amnesty International. Mercredi soir, au moins 23 personnes ont été arrêtées suite à la première manifestation nocturne qui a réuni plusieurs centaines d'opposants au scrutin. Claire Morin-Gibourg a joint hier à Alger la journaliste Djamila Ould Ketab.
Ce qui était surprenant, en fait, c'est le mot d'ordre du mouvement de contestation qui est apparu le 22 février. C'est d'abord, dans un premier temps, contre la candidature de la ville Bouteflika, puis ensuite, plus généralement, contre le régime politique. Ce qui était surprenant, c'était que le mot d'ordre, c'était de ne pas faire des manifestations nocturnes, mais donc, pour le moment, ils sont tentés des marches hebdomadaires chaque vendredi. Là, on voit que le mouvement a décidé d'intensifier la contestation à l'approche de l'élection. Il faut savoir qu'elle aura lieu dans seulement 3 semaines. Et donc, du coup, il y a des centaines de personnes en provenance donc, de Babeloua, d'un quartier populaire d'Alger, qui se sont dirigées vers le centre de la capitale, à la Grande Poste, donc pour empêcher et créer la détermination à ne pas voir la mise en place de ce vote. Donc, du coup, c'est un signe qu'au-delà des marches du vendredi, une partie des manifestants, en tout cas, est déterminée à intensifier leur mouvement.
Est-ce qu'à votre avis, les élections vont pouvoir avoir lieu?
Alors, en fait, c'est une question que tous les observateurs se posent depuis l'annonce de l'organisation de ces élections. C'est vrai qu'on voit la détermination du régime à diriger et à imposer le scrutin. Hein. On parle d'une élection en marche forcée ici. Alors, du coup, la campagne a démarré dimanche dernier. C'est une campagne sous haute tension. C'est une campagne très laborieuse pour les 5 candidats qui sont en liste. Il faut savoir que pratiquement tous leurs meetings ont été chahutés par des manifestants qui montrent leur détermination à essayer d'empêcher ce scrutin. D'ailleurs, c'est devenu le principal slogan aujourd'hui du mouvement de contestation. C'est pas de vote, pas d'élection.
Avez-vous été surprise par les mots du général Salah qui a parlé d'élan populaire face à ces élections?
Oui, ça, le général de Salah est un peu le DRC des élections. Hein, c'est l'homme fort du régime depuis la démission du président de la justice en avril dernier. On en est à son deuxième discours en 48 heures, donc il faut s'attendre à ce que du côté de l'armée aussi. On intensifie la pression pour appeler les Algériens à les voter.
La journaliste Djamila Ould Ketab, jointe jeudi à Alger.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraogo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.